tous et bienvenue dans cette édition spéciale des clairvoyants.
Les clairvoyants.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong?
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale des clairvoyants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le générique habituel d'Iron Man 3, on a une musique appropriée. Une émission spéciale avec un invité spécial, aujourd'hui en plus de mon ami Fox. Bonjour Fox.
Bonjour Fask, bonjour notre invité.
Je reçois l'ami Ike, donc de Comics Outcast, qui est venu nous prêter main forte pour parler de l'homme araignée.
Bonjour à vous deux, j'ai enchanté d'être invité.
Mais écoute, nous sommes enchantés aussi et on va commencer tout de suite, donc ce sera une émission un peu spéciale, consacrée exclusivement à Spider-Man et à son arrivée dans le MCU. Pas de news, ni de théorie crafting, enfin quoi que peut-être un petit peu quand même.
It works! It works! I'll get Spider-Man this time!
Rappel de l'historique de Spider-Man. Moi, je suis pas vraiment un grand connaisseur des comics. J'espère que vous allez pouvoir m'aider, Fox et Ike.
Un petit peu.
Oui, ouais, on s'en connaît un peu.
Bon, bah, si vous pouviez nous faire un rapide topo, donc, de qui est Spider-Man pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne sauraient pas encore qui est le personnage, c'est le moment.
Alors, commençons par l'ami Peter Parker, dit Spider-Man. Monsieur Spider-Man est apparu en 1962. Donc, il est apparu assez tard au final de l'âge d'or du comics. Il est apparu dans Amazing Fantasy 15, créé par Stan Lee, mais ce coup-ci, c'est pas Jack Kirby qui a été le second papa, c'est Steve Ditko qui a créé Spidey avec Stan Lee. Petit à petit, il a trouvé sa place au sein d'autres séries, et ensuite, il est devenu le Spider-Man qu'on connaît aujourd'hui. Il a eu un succès, on peut dire, aussi retentissant que celui de Captain America dans le cœur du public, et à la fois, c'est aussi le perso le plus tourmenté de tous les personnages de Marvel. C'est celui qui aura souffert le plus, autant psychologiquement dans les séries que carrément dans le monde réel. On va en parler tout au long de l'émission, mais c'est un perso qui aura quand même pas mal morflé.
C'est vrai. Je pense que c'est un des personnages qui est mort le plus souvent.
Alors moi, la question que j'avais envie de poser, c'était est-ce que c'est un comics ? On sait par exemple que les Fantastic Four ont jamais été un comics qui a eu un grand succès. Est-ce que Spider-Man, c'est un comics qui cartonne ou comment ça se passe en fait ?
Ça a cartonné. Ça a mis un ou deux ans à cartonner. Au début, c'était dans Amazing Fantasy, et puis après, il a rejoint les Fantastic Spider-Man, Incredible Spider-Man, Amazing Spider-Man et différents albums et différentes séries. Et on l'a intégré un peu partout. Il s'est retrouvé intégré assez vite au Fantastic Four, parce qu'étant donné qu'ils sont new-yorkais aussi, on a fait pas mal de crossover avec lui. On le retrouve aussi chez les Avengers, où il est un membre relativement important des Avengers, qu'on le retrouve dans beaucoup des grands combats des Vengeurs, où il intervient soit en sidekick, soit vraiment en homme de poing, notamment dans le combat contre le Super Adaptoid par exemple, ou dans d'autres quêtes comme la quête des dieux où on le voit arriver vers la fin, il est là, tu fais mais qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, tu te rends compte que il est toujours en espèce de support. Alors que c'est un héros pourtant important, il apparaît en support et au final, parfois, il crève l'écran. Mais au niveau des comics purs Spider-Man, ça a relativement bien marché jusqu'au milieu des années 80 où ça a commencé vraiment à décliner. Alors, il y a eu beaucoup de combats. On n'a pas cessé de le voir directement. Il apparaissait chez les Avengers, chez Fantastic Four. Il y avait des histoires avec Venom, avec Kraven. Il y a eu de très très bons albums qui sont sortis dans les années 80, notamment... Si je me rappelle bien, Kraven la Stunt, donc Kraven le chasseur, qui est un grand ennemi, un des grands ennemis de Spider-Man. Et c'est surtout dans les années 90 qu'on va voir Peter Parker revenir sur le devant de la scène, parce que Spider-Man a vieilli, la série est en train de s'écrouler un petit peu, et on va aller chercher un jeune dessinateur, qui s'appelle Todd McFarlane, et qui va redonner vie à Spider-Man dans des albums incroyables. Alors moi je les ai connus à l'époque où c'était édité dans les Strange, mais on retrouve un Peter Parker avec un trait beaucoup plus torturé, beaucoup plus violent, beaucoup plus vif, et ça va ouvrir la voie à plein de nouveaux albums de Spider-Man, et ça va aussi ouvrir la voie à toute une génération de dessinateurs comme lui qui vont aller dans un trait beaucoup plus fort, beaucoup plus vif, et Spider-Man va retrouver ses lettres de noblesse dans des séries qui sont plus avancées. Il sera beaucoup moins sidekick et on le verra beaucoup plus lui confronté à des... on peut penser à Maximum Carnage par exemple, où on verra arriver les symbiotes Venom et Carnage. On va en faire des jeux vidéo, on va en faire plein de truc, il y, a même des mini-séries animées sur Maximum Carnage. Et ça va aller comme ça jusqu'au début des années 2000. McFarlane va quitter Marvel pour faire Spawn et ses propres séries vers 96-97, si je me rappelle bien.
Chez Image, ouais.
Voilà. Et à partir de là, les fans vont être un peu malheureux de perdre le trait de McFarlane et puis le ton qu'il avait donné à Spidey, parce qu'il avait, énormément renforcé, il avait rendu beaucoup plus moderne, en fait. Il avait vraiment redonné un nouveau sens à la série. Et au début des années 2000, ça va s'effondrer. Et les films vont prendre le pas. Parce qu'on est à une époque où le cinéma maîtrise beaucoup mieux la 3D qu'avant. Et le public avait envie de voir du Spider-Man, et on va arriver aux films de Sam Raimi, qui vont vraiment remplacer quelque part les comics Spider-Man par les films aux yeux du grand public.
Mais c'est à ce moment-là qu'il va commencer à devenir vraiment populaire, j'ai l'impression aussi.
C'est ça. Sa popularité explose au niveau mondial avec les films de Sam Raimi de Sony Pictures.
Et d'ailleurs, il va se propager dans les autres médias, hein, Ike, puisque tu voulais nous en parler. Il a quand même une carrière aussi importante dans les jeux vidéo.
En effet, tout a commencé en 82, en fait. Depuis 82, donc le premier jeu, c'était sur Atari 2600.
Ça date.
C'était assez vilain, d'ailleurs. Hein. Le principe était relativement simple. Il suffisait simplement d'atteindre le sommet d'un gratte-ciel en tissant des toiles qui étaient noires. Bon, pourquoi noires, je sais pas. Mais voilà, système très simple, hein, avec un gameplay défiant tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Entre-temps, on a eu d'autres jeux un peu plus généralistes, on va dire. Il y avait le Spider-Man qui est sorti sur toutes les plateformes dans l'année 2000. Mmh. C'est un simple beat'em all en 3D avec une partie action, une partie plateforme. Voilà, c'était un premier jet dans ce que les nouveaux jeux Spider-Man allaient devenir. On a aussi, à partir de 95, des versions jeux de combat. Donc ça, c'est tout ce qui est crossover Capcom, donc Marvel Super Heroes, Ultimate Marvel vs Capcom 3, tous les jeux entrent. Et ensuite, on a toutes les adaptations, naturellement, de tous les films qui sont sortis depuis 2008 jusqu'aujourd'hui. Voilà, qui sont pas toujours de bonne mouture, mais bon, c'est
forcément... Il y en a eu beaucoup, parce que Activision a récupéré le développement des jeux Spider-Man très très vite. Il y a eu les trois premières itérations, qui étaient les trois jeux des films, qui étaient pas mauvais du tout, mais qui étaient pas non plus, enfin c'était pas retentissant niveau scénar, mais les jeux étaient bons, c'est-à-dire que t'as vraiment un New York bien modélisé, les impressions de vitesse sont bonnes, Spidey est plutôt fun, il y a eu des adaptations comics aussi, qui étaient un peu n'importe quoi, il y en a encore eu avec des Spider-Man, tu voyages dans le temps avec différentes époques de Spidey. Mais il y en a eu énormément au final, et les jeux ont quand même bien fonctionné au final.
Ah oui, en surfant justement sur toute cette vague des films et des comics qui revenaient, et de la popularité de base du personnage qui, autour des années 2010, était au top, forcément, voilà, derrière les ventes suivent. Hein.
Et puis sinon, du côté de la télé aussi, on a eu beaucoup de versions de Spider-Man, dont des versions relativement improbables. Hein, Ike.
Oui, alors on va commencer par la première, naturellement, celle qui est sortie après, quelques années après la création du personnage. C'était en 67, hein, donc le dessin animé fait de l'époque, hein, donc pas forcément très joli, et qui est un générique que tout le monde connaît aujourd'hui.
C'est qui est celui que j'ai mis en début d'émission, d'ailleurs.
Voilà, donc je vais pas le rechanter, parce que c'est horrible. depuis, il y a eu quand même pas mal d'adaptations en dessin animé, mais tout ce qui est avec de véritables comédiens, donc en live action, la première tentative, c'était en 77, donc pas si longtemps après. Ça n'a pas du tout pris, hein, et ils ont fait que 13 épisodes, donc ils ont laissé tomber. Et je voulais revenir juste sur une petite version japonaise qui a été faite, que beaucoup de gens connaissent finalement, mais que personne n'a véritablement vu en entier. C'est la Toei, donc c'est la compagnie qui fait les Sentai au Japon, qui a fait un petit accord avec Marvel pour créer et adapter un Spider-Man là-bas, également en live action, sauf que ils sont partis en cacahuète très rapidement, et en fait l'adaptation n'a rien à voir avec la véritable vie du héros qu'on connaît tous. D'ailleurs, il ne s'appelle même pas Peter Parker, mais Takuya Yamashiro, donc voilà, Japon, et il se bat avec des robots géants, enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi, donc à ce niveau-là, c'est un truc un peu exceptionnel. Et on a eu beaucoup de dessins animés, surtout dans les 20 dernières années. Le plus marquant, en tout cas au début des années 90, c'était donc le dessin animé juste Spider-Man, qui incluait un peu de 3D dedans. C'était un événement dans l'animation à cette époque-là, et la série courante, c'est celle qui s'appelle Ultimate Spider-Man, qui passe sur France 4 en ce moment. C'est écrit par Bendis, donc au niveau de l'histoire, ça se tient vraiment pas mal. Il y a beaucoup de références aux comics de l'époque. Donc voilà, si vous avez le temps, il n'y a pas énormément d'épisodes, enfin 60, 70, mais bon, c'est j'en ai regardé quelques-uns il y a 2-3 ans, ça va, ça se regarde. C'est
pas mal du tout, et ouais. Comme Bendis s'occupe aussi des comics Ultimate, ça garde quand même un certain trait, et ça garde un certain style Marvel.
Oui, chaque saison est bien définie, il y a des conséquences à chaque fois, c'est pas le simple dessin animé... que vraiment juste uniquement pour les enfants avec une morale à la fin qui n'a aucune conséquence. Là ça se suit vraiment, et quand il y a des morts, il y a des morts, quand le shield disparaît, ça disparaît, ainsi de suite, on avance et c'est plutôt pas mal.
Ok, bah écoute, c'est noté, donc ça c'est pour la carrière de Spider-Man en télévision, et puis forcément bah, la carrière au cinéma que là tout le monde connaît, donc je pense qu'on va pas s'étendre trop longuement non plus. Il y a eu
les 3 films de Sam Raimi qui ont bien marché,
les 3 premiers films de Sam Raimi, enfin on oubliera le 3e qui a été assez médiocre, on va dire.
C'était une très belle cash machine quand même.
Oui,
ça marchait bien.
Ça marchait plutôt pas mal. Puis après, ils ont voulu rebooter la série avec Amazing Spider-Man, avec Mark Webb, le bien nommé pourtant.
Ouais.
Et ça n'a pas fonctionné avec notre ami, comment s'appelle l'acteur déjà? J'ai oublié son nom maintenant.
Mince. Oh. Il est sorti de ma vie.
Il est sorti de mon cerveau, alors que ça fait 2 jours qu'ils n'arrêtent pas d'en parler.
Andrew Garfield, voilà. Donc,
le
Andrew
pauvre,
Garfield.
Il n'aura marqué personne, quoi. On se rappelle de Tobey Maguire, mais pas de Garfield.
Il a déjà disparu de nos cœurs. Bref, bah donc voilà, donc ces deux films relativement dispensables aussi, hein, qui avaient finalement se servaient surtout du lore pour faire de l'intrigue à deux balles et un film finalement pas très intéressant qui
le
partait un peu.
Le premier était moyen, mais il avait encore, il pouvait laisser de l'espoir,
bah,
le deuxième par contre.
C'était un film d'origine, donc en gros, c'était pas très très compliqué non plus. C'est
voilà,
le,
mais le deuxième, il laisse plus aucun doute sur le fait que c'est moisi. Hein. Jamie Foxx en bleu, je suis désolé, je peux pas.
Non, je peux pas.
Voilà, alors le film est pas un bon succès commercial, en fait, on va pas se mentir, le 2, le dernier, mais on sent bien que du côté de la critique, du côté des fans et du côté de Sony, on n'y croit plus trop. Et on sentait depuis quelques mois que, effectivement, depuis le leak, en fait, des fameux échanges d'emails entre Amy Pascal et ses sbires et les gens de Marvel, on était donc plus ou moins globalement au courant d'une négociation dans les coulisses pour essayer de récupérer en tout cas partiellement les droits de Spider-Man et de l'intégrer au MCU. Et ça a été confirmé donc il y a quoi 2 jours maintenant par une annonce officielle conjointe Marvel Sony Pictures. Donc on va essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible, ce que ça implique, et puis on essaiera après tout à l'heure de voir un peu ce que ça va donner du coup dans le MCU, si c'était une bonne ou une mauvaise idée au final.
Give up, Spider-Man! I can go on forever!
L'annonce pour l'expliquer aux gens qui n'ont pas suivi le truc, en gros, elle dit quoi ?
L'annonce directe qui a été diffusée donc dit que Spider-Man rejoint le MCU prochainement. Donc il va y avoir un film coproduit par Marvel et Sony. Mm-hmm. La production est confiée à Amy Pascal et Kevin Feige, le bon Kevin Feige dont on parlait encore le mois dernier dans le Clairvoyant, qui devait discuter avec les gens de Sony au mois de janvier. Mais Sony garde entièrement les droits sur Spider-Man. Les droits qu'ils ont achetés, donc on expliquera tout à l'heure ce que sont les droits de Sony sur Spider-Man. Ce qui va se passer par contre, c'est que Marvel va faire son taf, Sony coprod, mais ils ont un droit de regard sur le film. Donc ils vont pouvoir dire, ils ont le mot final, le final say, comme tu dis si bien, Fasque, sur le film. Mais bon, comme tu le disais aussi, s'ils sont pas cons, ils vont quand même écouter la team Marvel.
En fait, ça me paraît relativement clair. Je veux dire, là, les mecs de Sony sont clairement aux abois et ils savent pas trop quoi faire, donc c'est plutôt dans leur intérêt de... J'écoutais, je sais plus sur quel podcast, il y a hier soir justement un compte rendu de ces droits, enfin de ces échanges de bons procédés entre Sony et Marvel. Et en gros, le mec disait, oui, mais a priori, Sony va juste être une sorte de yes man, en fait, qui va dire oui, une fois que tout sera mis en place, parce que s'ils font du boulot, enfin, si Kevin Feige ramène toute sa troupe et qu'ils font le même bon boulot que ce qu'ils font chez Marvel Studios depuis le début...
Sony aura rien à dire.
Sony a t'as juste intérêt à regarder le truc passer. Après, et à faire ok, super, ramène le cash. Et,
économiquement parlant, le contrat tel qu'il a été annoncé et présenté, c'est aussi une manière pour Sony de garder la face, ce qui est très important pour eux, même au niveau des investisseurs de Sony Pictures et tout ça. Donc le fait que on garde le final say sur le film, on aura un droit de regard, on a tous les droits, c'est vraiment pour rassurer en interne et au niveau communication. Alors que bon, quand on lit entre les lignes, on sait très bien qu'ils sont dans une mouise pas possible. Le Sinister Six est sur la balance aussi. Ils savent plus quoi faire parce que Amazing niveau critique c'est pourri, et puis même le film, le troisième film Spider-Man, a été annulé aussi pour au final de arriver chez Marvel. Donc c'est normal quelque part qu'ils nous fassent un peu de bullshit marketing et commercial pour dire on a le mot, on est très fort machin, mais au final c'est Marvel qui vient à la rescousse de Sony pour un personnage quoi.
Bah en fait quand tu lis l'annonce tu vois très clairement que ça a été clairement bien réfléchi, chaque mot est pesé, la manière dont c'est tourné, on sent que c'est quasiment plus Sony qui dit venez Marvel, venez jouer avec nous chez Spider-Man.
C'est exactement ça.
Alors qu'en fait c'est quand même globalement l'inverse.
Donc c'est oui, c'est Feige qui va sauver Sony.
Il y a dû y avoir une
coup.
bonne crise d'ego du côté de Sony en disant ok, on veut bien faire tout ça, mais il faut que ça donne l'impression que c'est une super initiative pour nous et que c'est nous qui sommes les gentils dans l'histoire.
Ah, on sait très bien que Marvel, leur position en ce moment, elle est tellement haute qu'ils ne peuvent ils peuvent pas être dans la position justement où Sony leur demande de les rejoindre, c'est impensable.
Quelque part, c'est très drôle quand on repense à l'accord qui avait été signé justement il y a plus de 15 ans par Marvel, qui était dans une merde noire. Là aujourd'hui, Sony, ils ont eu un contrat abusif, ils en ont profité, mais ils ont fait n'importe quoi avec. Et c'est aujourd'hui Marvel qui aujourd'hui appartient à Disney, qui les regarde de haut, mais qui leur tend quand même la main. C'est assez drôle, quoi. C'est assez ironique au final.
Donc ça c'est en gros en quelques mots le l'accord, c'est que il va, comme tu le disais, apparaître pour la première fois dans un film du MCU. On en parlera tout à l'heure, savoir un peu lequel ça pourrait être. Et puis après, il aura son propre film, donc co-écrit, co-géré par Marvel et Sony. Et puis après, avec au final Sony qui dira s'il est d'accord ou pas avec le projet. On verra ce qui se passe. Et je pense qu'à mon avis, il y a encore d'autres clauses de contrat qui ne se débloqueront probablement qu'au succès du film et qui doivent être conditionnées par ça, avec la réutilisation. Donc notamment des personnages du MCU dans l'univers de Spider-Man, ce qui a été évoqué dans l'annonce aussi. Et puis à mon avis, une plus grande intégration dans ce cas-là de Spider-Man dans le MCU, parce que fondamentalement ils en ont pas non plus super besoin. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je pense que c'était important de le préciser juste là maintenant. Au final, qui gagne le plus à votre avis dans cette affaire? Est-ce que c'est plus à l'avantage de Sony? Est-ce que c'est plus à l'avantage de Marvel? Est-ce que c'est kiff-kiff?
Pour moi, c'est Marvel. Ouais. Pour moi, c'est clairement Marvel. Sony, dans une échéance qu'on ne connaît pas encore, à terme, ils vont perdre les droits de Spider-Man. C'est sûr. Donc, si c'est juste repoussé pour mieux sauter, on sait pas. Marvel, là, ils viennent justement de croquer un petit peu dans la pomme. Ils vont la finir un jour. Moi, je reste persuadé que c'est Marvel qui raflera tout à la fin. Et, enfin, Marvel Studios, en tout cas, qui raflera tout. Et que, Sony, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Je vois vraiment pas dans quel cadre le contrat peut être maintenu de la sorte, quoi. Donc là, il faut un pas l'un vers l'autre. C'est cool. Mais, à la fin, il ne restera qu'un, hein.
Je pense que clairement, maintenant, pour l'instant, c'est Sony qui a l'avantage parce qu'on n'a pas le contrat en entier. Et je suppute que même si Spidey rejoint le MCU, qui va voir son film MCU et le reste, Sony garde ses droits. Et il y a toujours le Sinister Six derrière. Donc, en fonction du succès, à moins que les mecs aient négocié un rapatriement de Spidey vers Marvel.
Progressif.
En progressif, tu vois. S'ils continuent à maintenir leurs droits dans leurs bottes, à faire le Sinister Six comme c'est du Spider-Verse, ils conservent la licence sur le Spider-Verse. Ça nous repousse à 2021. C'est pas loin, on va dire 2021. Mais entre-temps, ils peuvent refaire un autre film, même merdique. Et repousser les droits et après essayer de faire chanter Marvel au point de vue financier en disant si vous voulez on veut bien vous racheter le contrat, pouvez nous racheter le contrat machin, mais ça va vous coûter tant. Et étant donné que Sony a besoin d'argent parce que actuellement chez Sony le seul truc qui rapporte c'est la branche PlayStation, faut pas oublier, c'est la branche console et jeux vidéo qui rapporte à Sony, parce que Pictures est pas forcément bénéficiaire sur tout, et la branche télé hi-fi, ça c'est en berne aussi. Ils vont essayer de récupérer du blé, ils ont vendu beaucoup de bâtiments. bilan, si on prend au global la situation financière de Sony, c'est sympathique, mais ça pourrait être sacrément mieux, et il va falloir qu'il lâche du lest. Et Spider-Man, c'est un bon moyen de lâcher du lest en récupérant de l'argent. Donc pour moi, Marvel récupérera les droits, mais Sony va prendre du blé et pas qu'un peu, quoi.
À savoir que Spider-Man, c'est... Enfin, alors je me rappelle pas lequel, mais c'est un des films qui a rapporté le plus à Sony.
Ah ben, au total, sur les 5 films, c'est 4 milliards de dollars.
Ouais, c'est pas négligeable.
Sachant que le premier avait fait 1 milliard déjà.
Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le succès commercial des Amazing est vraiment pas du tout à remettre en question, mais le problème, c'est qu'on sentait que c'était vraiment sur la pente descendante, et tout le monde était très très inquiet pour le 3, et puis je pense qu'il y a eu un faisceau de circonstances, la situation financière de Sony Pictures qui est pas terrible, Andrew Garfield qui annonce très rapidement à la sortie du 2 que très franchement, s'il pouvait passer le flambeau, ce serait cool. Un désaveu global de la structure manifestement qui avait été mise en place autour d'Orsi Kurtzman, les deux scénaristes donc d'Amazing qui ont aussi bossé sur Star Trek, qui sont des espèces de tâcherons, mais bon, enfin, on fait avec ce qu'on a, mais qui sont des mecs qui savent écrire manifestement des blockbusters, hein, Transformers, c'était eux. Quand on a appris notamment que ces gars-là dégageaient un peu, on a commencé à sentir que l'édifice tenait plus trop en place chez Sony et qu'ils savaient plus trop quoi faire, et très sincèrement, je les voyais pas faire un Amazing Spider-Man 3. Je pense qu'ils auraient effectivement essayé de miser plus sur le lore Marvel dont ils ont la jouissance, comme les Sinister Six effectivement, mais ça sentait vraiment pas bon, quoi. Donc clairement, pour moi, l'avantage là tout de suite, il va surtout à Sony, parce que ça les sauve d'une mise invraisemblable, et puis surtout récupérer la team Kevin Feige pour écrire un bon film, ça me paraît plutôt être une idée intelligente.
Et parce qu'il faut pas oublier que Feige bossait sur les premiers Spider-Man de Raimi.
Ouais, tout à fait, il bossait aussi sur les premiers X-Men, c'était un assistant nerd qui servait de conseiller. Voilà, il connaît un peu tout le monde, il est habitué à travailler avec ces gens-là, mais aujourd'hui il est dans une position de force qui n'était pas le cas à l'époque, ça c'est plutôt cool. Donc au final, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je pense que, enfin, moi j'étais assez sceptique à l'idée, c'est vrai, il y a encore quelques semaines quand on en parlait et que c'était pas confirmé, je voyais pas trop ce que pouvait apporter, surtout je voyais pas la nécessité absolue de récupérer Spider-Man pour Marvel, parce que pour moi fondamentalement ils en ont pas besoin. Alors c'est vrai qu'il a un côté très symbolique lié à Civil War et que ça aurait été chouette de pouvoir faire un petit clin d'œil aux fans, etc. Mais pour moi, si tu veux, je m'attendais surtout à une espèce de caméo, quoi. Et c'est ce qu'on va avoir finalement, à mon avis, dans Civil War.
Il y a de très grandes chances, ouais.
Moi, je pense qu'il va juste apparaître, mais il va pas avoir un rôle majeur. Ce serait prendre beaucoup de risques par rapport à un personnage dont on connaît finalement pas l'avenir, surtout avec le premier feature film qui va sortir en 2017. Je pense que si Marvel veut rester prudent et pas trop se lier au mec, ouais, il va falloir faire ça de manière diligente, quoi, avec juste un petit caméo.
Je pense aussi que Spider-Man pourra pas avoir une trop grande place si jamais il apparaissait dans Civil War. Déjà, par un calcul assez simple, c'est qu'il y aura déjà beaucoup, beaucoup de nouveaux personnages dans ce film, déjà. On parle de Black Panther qui devrait arriver, plus Falcon qui va revenir, il y aura peut-être Bucky, et ainsi de suite. Ça fera déjà beaucoup de personnages qu'il faudra à nouveau installer, plus certains présentés. Si on nous met du Spider-Man, enfin en tout cas pendant plus de 5 minutes, ça va, je pense, compliquer les choses. Donc soit ce sera une référence un peu comme dans Winter Soldier, où ils donneront son nom, on le verra peut-être sans son costume ou quelque chose comme ça.
Je pense pas, parce qu'ils ont bien clairement annoncé que c'était une apparition, donc il faut vraiment qu'il apparaisse dans le film. Mais cela dit, oui, ça peut rester très, très anecdotique, un mec qui passe dans une réunion au moment de la guerre civile, justement. Enfin, voilà.
Ou un mec qui prend des photos, clin d'œil.
Ah ouais. Ah, pas bête.
Photographe de la guerre civile. Mais
on en reparlera tout à l'heure, voir comment on peut l'intégrer justement de manière propre dans le MCU. Mais donc, globalement, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Moi, je suis content. J'étais satisfait.
C'est pas une mauvaise, à mon sens.
Bon, bah,
c'est une marque de Marvel de quelque part. C'est un beau geste de Marvel à Sony, parce qu'il faut pas oublier que c'est un beau geste, mais quelque part je commence à connaître un peu le Kevin Feige, voir un peu comment il marche. Comme tu le disais tout à l'heure, le mec est un nerd, il aime Marvel, il aime le truc sur lequel il bosse, et il a envie de récupérer tout à la maison, donc en voyant plus loin, je pense que c'est une première case bougée sur l'échiquier, et ça peut être une très très grosse case.
Alors forcément, la question est au, enfin la question est à l'ordre du jour. Hein. Est-ce que on pourrait avoir un deal similaire avec la Fox dans un avenir proche? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que la Fox en a rien à branler, qu'ils ont assez de thunes qui rentrent avec les films et la franchise X-Men pour le moment, ce qui sont pas dans une position, on va dire, aussi délicate que Sony Pictures.
Ils ont les Fantastic Four.
Et ils ont les Fantastic Four.
Ça va se casser la gueule.
Bah, c'est pas sûr encore.
Ça va se casser la gueule.
C'est pas sûr. Mais donc ouais non, à terme, moi je vois pas vraiment. Marvel est en position de force pour le moment, ça c'est clair, et c'est comme ça qu'ils peuvent se permettre de faire plier Sony sur certains deals. Mais je pense pas qu'ils ont encore la force d'aller chercher la Fox là tout de suite.
Peut-être pas de suite, mais à long terme, la Fox va commencer à se désintéresser de ce genre de choses, parce que là, la Fox continue à faire des films. Pourquoi ils ont relancé Days of the Future Past et la série X-Men et Wolverine et tout ça? C'est parce qu'à côté, il y avait Marvel qui tirait la charrue aussi. Hein. Mm-hmm. C'est Marvel qui poule au niveau super-héros. La Fox en profite, ça marche plutôt pas mal. Les derniers films X-Men étaient moyens, mais bon, je les ai quand même bien aimés. Sauf le dernier Wolverine qui était vraiment à chier, mais bon, c'est encore autre chose.
Il y a des Wolverine qui sont bien.
C'est ça. Merci. Non, non, c'est totalement ça. C'est de la merde, mais c'est pas grave, je regarde quand même. Mais à terme, je pense que la Fox pourrait se désengager quand Marvel aura un vaisseau amiral. Ils sont en train de se construire un vaisseau amiral en ciné, avec des vrais arcs, des vrais personnages, une continuité historique, quelque chose qui n'a jamais été fait. Mmh. Parce que là, ça dépasse le cadre de Star Wars, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. C'est-à-dire, on est sur des séries avec plusieurs personnages, plusieurs histoires, un même univers, une continuité sur presque 15 ans au final.
Ouais.
Ça durera sur quasiment 15 ans, parce que 2005-2020, ça fait 15 ans. C'est un truc qui n'a jamais été fait. La Fox va pas pouvoir suivre. S'ils font, là, ils vont faire Apocalypse dans 2 ans, et puis après, ils vont faire quoi?
Bah, en fait, moi, ce que je me dis, tu vois, c'est que la différence entre les deux positions, celle de Sony et celle de la Fox, d'une part, le fait que les studios sont pas du tout dans le même état financier, mais outre ça, le fait aussi que Spider-Man, c'est quand même une franchise très très limitée, quoi. Au bout d'un moment, t'as un peu vite fait le tour. Et le fait qu'on annonçait des films autour des Bad Guys, donc les Sinister Six, c'est quand même symptomatique d'un manque quelque part. Alors que de l'autre côté, chez la Fox, t'as les X-Men, quoi. T'as un panel incroyable de personnages avec les Fantastic Four que tu rajoutes dans l'eau et tous les personnages annexes.
Ils en font un Expendables au final où tu vois chaque perso quelques secondes, quoi.
Ça, on s'en fout. Ça veut dire que eux sont pour le moment dans une position où ils sont pas du tout acculés. Ils sont pas du tout coincés, ça marche, les films se vendent super bien, le buzz autour d'Apocalypse est juste incroyable alors qu'on n'a encore rien vu, et je suis certain qu'il va remplir les salles aussi. Donc
il va remplir les salles parce que c'est le plus grand arc des X-Men aussi.
Ouais, enfin je suis pas sûr que ce soit la raison pour laquelle il va remplir les salles, mais je pense qu'il va remplir les salles tout simplement parce que les X-Men ça cartonne et voilà quoi.
Il faut voir aussi les acteurs qui vont les lâcher parce que tout le monde va pas continuer chez X-Men.
Bah là on parle du retour de Patrick Stewart, on parle du retour de Ian McKellen alors que c'était pas prévu à la base et que je vois pas trop comment ils vont les intégrer, mais soit.
C'est ça, parce qu'il devait pas y être normalement.
Non, et là en fait, c'est Patrick Stewart qui parlait dans une interview de son retour pour Apocalypse. Mais bref, tout ça pour dire que globalement, je pense pas que la Fox soit dans une position qui permette à Marvel de les courtiser comme ils ont pu courtiser Sony.
Moi, ce que je me dis, c'est que à la différence de Sony, c'est que une des choses qui peut les faire flancher, hein, donc chez la Fox, c'est peut-être la demande des fans. Est-ce que si les fans se mobilisent assez, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut leur faire, en tout cas, pousser la porte de Marvel et dire bon, écoutez, pour une fois, on va faire quelque chose.
Ils nous cassent les couilles, ils veulent absolument
qu'on fasse. Si y a moyen, ça rapporte, ils vont le faire.
Bah oui, voilà.
Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est intégrer aujourd'hui, faire une joint venture avec la Fox, Marvel, Sony. C'est l'assurance d'avoir une prod. Ouais, voilà, non, mais c'est l'assurance d'avoir du cash, d'avoir une production qui est ultra carrée, parce que les équipes de Feige ont fait leur preuve maintenant, hein. Que ce soit en télé, en ciné, en télé on va le voir en avril, mais même il y a déjà Agents of S.H.I.E.L.D. et John Carter, tous ces trucs là c'est du solide. ABC est très content des séries, Netflix ils vont faire tout un panel sur le gang new-yorkais. Pour eux c'est intéressant, les Fox, si les fans appuient sur la Fox, ils vont commencer à réfléchir, ils vont se dire bon, alors là il y a encore plus de fric à se faire,
ouais.
Est-ce qu'on va s'asseoir dessus? c'est une période difficile pour le cinéma dans le monde. Les gens vont au ciné, mais ils vont sur certains titres. Le Marvel MCU drague énormément de monde au final, hein, parce que les films ils fonctionnent tous bien. Ce serait tout bénef pour eux. Et la Fox étant relativement greedy, on l'a vu ce qui s'est passé avec les Simpsons et avec d'autres trucs, je pense qu'ils pourraient faire un geste s'il y a des bifetons à la clé.
Ouais, je reste pas convaincu du tout en fait, hein, d'autant plus qu'on sait que les deux sociétés s'entendent pas super bien, donc je les vois mal par les temps qui courent faire ce genre de cross, surtout que bon, pour le moment, il y a aucune, enfin, on parle de deux continuités parallèles qui ont plus d'une dizaine d'années chacune avec leurs propres univers, leurs propres persos et tout, les arriver à les fusionner aujourd'hui, ça relève un peu du délire fou, je pense. Mais bon, on verra.
Fusionne les réalités avec un coup de Scarlet Witch et tout est bon.
C'est ça.
On refait un House of M et on fusionne tout le monde.
Mais bon,
allez.
On a Spider-Man, c'est pas mal. Et bah du coup, on va un peu voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer notre ami Spider-Man dans le MCU, voir comment ça pourrait être fait pour que ça se passe bien. Il n'y a pas énormément d'options et on va en parler après une petite pause musicale.
Jarvis, drop my needle.
Ben's Death, très joli morceau de James Horner tiré de la bande-son de The Amazing Spider-Man, donc en corrélation avec ce dont on parle aujourd'hui dans cette édition spéciale des Clairvoyants. Et je propose qu'on revienne tout de suite à notre débat sur l'intégration justement de Spider-Man dans le MCU avec Fox et avec notre invité Ike de Comics Outcast.
It works! It works! I'll get Spider-Man this time!
Alors, je suis toujours avec mon ami Fox et avec notre invité Ike de Comics Outcast pour parler de Spider-Man. On attaque ce qui nous intéresse en fait, nous, ici, dans les clairvoyants, donc l'arrivée de Spider-Man dans l'MCU. Comment ça va se passer, à votre avis? Il faut savoir que donc on a une information, c'est qu'il doit apparaître manifestement contractuellement dans un film du MCU avant son film solo. Son film solo sort en 2017, donc c'est à dire que ça nous laisse trois possibilités. Il y a Civil War, c'est le premier qui, enfin il y a Ant-Man, il y a Age of Ultron et Ant-Man, mais on va pas en parler parce que ces deux films sont bouclés, je pense pas.
Et Age of Ultron, c'est mort
déjà à ce moment-là.
Je pense. Ouais.
Donc Civil War qui est le plus probable pour le moment. Il y a aussi Doctor Strange et il y a les Guardians of the Galaxy 2, bon voilà, ces deux derniers, je pense qu'il y a vraiment pas de raison qu'on les voit, ce serait assez particulier.
Strange, ce serait possible, parce que c'est encore une fois un New Yorkais, je vais y venir, mais...
Oui, mais le problème de Strange, c'est que c'est une nouvelle licence ultra casse-gueule, et que si tu la lances en faisant de l'ombre avec un personnage ultra populaire qui débarque comme un cheveu dans la soupe, je suis pas certain que ce soit un bon calcul. Après, ça peut aussi ramener des gens dans les salles pour aller voir une licence qu'ils auraient pas forcément
je
été voir.
Je te rappelle que Doctor Strange, c'est Benedict Cumberbatch, alors me parle pas de cheveux dans la soupe, s'il te plaît.
Tu l'aimes pas?
C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'on le voit beaucoup trop, j'en ai marre, je voulais un autre perso, et puis voilà. Non, c'est un bon acteur, mais ça pourrait être une possibilité, mais comme dit Fask, voilà, c'est une licence super casse-gueule et super dark. Est-ce qu'il apparaîtrait pas? Je pense qu'il pourrait, ne serait-ce que tu le vois, tu le fais apparaître dans une réalité alternée ou un truc comme ça, parce que Doctor Strange, j'aime bien les dimensions parallèles aussi, mais le plus probable, c'est Civil War, on est d'accord.
Ça serait complètement gratuit, donc ouais, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va voir sa tronche pour la première fois dans Civil War.
Ouais.
Du coup, deuxième question liée. Qui pour incarner le nouveau Spider-Man et surtout qui pour s'occuper du film chez Sony? Alors moi, ce que je pense, c'est que comme Marvel a l'ascendant pour le moment, ils vont probablement essayer d'imposer leur gars à l'écriture et à la réalisation. Ça me paraît logique.
Pourquoi pas Whedon?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Whedon est un mec qui a manifesté un léger désintérêt pour Captain Marvel, on va dire ça comme ça. Hein. On lui a demandé s'il serait intéressé par le film et il a fait comprendre que là, il en avait un peu marre et qui voulait faire des trucs à lui. Mais Spider-Man, je sais que le bonhomme est ultra fan et que là, par contre, c'est un truc qui se refuse peut-être moins facilement.
Donc c'est peut-être aussi un mouvement de Marvel pour ramener Whedon dans son giron.
C'est ça.
Ça pourrait être le truc totalement diabolique.
C'est
on t'offre Spidey,
fais plus la gueule, reviens, on a Spider-Man, allez.
C'est ça.
Donc je sais pas, donc moi c'était effectivement mon fantasme de nerd, mais après il y a plein d'autres possibilités. Je sais qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent sur des noms d'acteurs pour Spider-Man, mais alors j'ai un peu zappé le truc.
Déjà là depuis deux jours?
Ouais, il y a déjà
Pas, il y en a plein qui arrêtent pas de réclamer Elijah Wood.
Non, mais ils vont viser beaucoup plus jeune à mon avis, là ils sont partis sur du adolescent 18-19 max.
Oui, donc un Morales.
Morales c'est mort, hein, de toute façon, puisque dans l'annonce ils parlent de Peter Parker, donc ça je pense que, à moins qu'ils aient fait une typo aussi, je doute qu'on ait Miles Morales, et puis ça serait compliqué en fait d'annoncer dans un premier temps que tu récupères un personnage et qu'en fait c'est pas vraiment lui, c'est une autre itération. Ça fait un peu bof, quoi, tu vois, ça va être difficile à suivre.
Mais on n'assume pas.
Voilà. Donc vous avez des idées, des envies, des suggestions de scénaristes, de réalisateurs, voire d'acteurs éventuellement pour ce nouveau Spider-Man.
En jeune acteur, ça va être difficile, je crois, hein, mais je vois pas. J'ai vu passer un tweet il y a quelques jours, mais je crois que c'est hier après-midi, où des gens, des nanas réclamaient Justin Bieber en Spider-Man.
Oh, mais non.
Ce Marvel à quoi je pose un nom catégorique et je pose mon épée sur la table pour trancher des mains si ça sort. Mais
non, il faut un peu de bon sens. Enfin, vu le casting qu'il y a eu sur les personnages, par exemple, Thor, le comédien dont j'ai déjà oublié le nom, je suis désolé.
Chris Hemsworth.
Merci. N'était connu à la base qu'en Australie. Ils ont pris, enfin, un gros pari, il est joli, il est assez bien foutu, ils l'ont mis, aujourd'hui tout le monde le connaît sur la terre entière. Il fait d'autres films, bon, qui sont pas forcément aussi bien que ceux qu'il peut faire chez Marvel,
il est
sachant
pas
que
mauvais
films...
acteur. acteur, c'est déjà ça.
Non, non, voilà. Donc, on peut soit miser sur un nouveau visage, ou alors nous faire une Robert Downey Jr., donc un vieux de la vieille, un comédien qui a pas mal tourné et qui a déjà fait ses preuves, mais dont le visage fera venir les clients à son premier film solo tout de suite parce que son charisme naturel attira tout le monde. Mais moi, je parie plus sur la nouvelle tête.
Pour les deux acteurs, j'ai retrouvé donc c'est Dylan O'Brien qui aurait donc joué dans The Maze Hunter et Logan Lerman qui lui serait un mec qu'on avait vu dans The Perks of Being Wallflower.
Oui, d'accord.
C'est vraiment super jeune, quoi. Ouais. C'est 23 ans pour les deux, en fait.
Donc, ça nous mettrait un Peter très très jeune.
Bah, c'est ce qu'il voulait faire, hein. C'est ce qu'on avait cru comprendre des leaks qui avaient filtré des échanges de mails qui repartaient sur un Peter Parker à l'école, jeune, machin, tout ça. Donc, ça pourrait être effectivement une confirmation de la piste qui est prise à ce niveau-là.
C'est la période bénie de Spider-Man, parce qu'après, pour lui, c'est la dégringolade dans sa vie et c'est compliqué à gérer au niveau ciné, quoi. C'est toujours le souci.
Alors, une question qu'on peut se poser, qui est légitime aussi par rapport à l'intégration de Peter Parker, donc Spider-Man, dans le MCU, est-ce que ça va obliger à une réécriture de certains films, de réorienter la phase 3 dans une autre direction? Moi, je pense que c'est vraiment pas nécessaire, surtout s'ils se contentent pour le moment de l'intégrer de manière relativement discrète. Mais c'est clair que ça ferait plaisir de voir Spider-Man dans Infinity War, par exemple.
Niveau réécriture, je pense qu'il va y en avoir, peut-être pas profonde, à moins que ils retravaillent, je sais pas, par exemple Black Panther, Doctor Strange, pour intégrer Dieu seul sait comment Spider-Man à un moment, ce qui serait assez bizarre d'ailleurs, ce qui serait pas forcément utile, mais je pense pas qu'il y aura de très très grosses réécritures pour les prochains films. La plupart sont pas bouclés encore, donc ça leur laisse encore un peu de temps, mais pour ce qui est déjà fait, à moins qu'ils réécrivent un morceau de Civil War pour intégrer Peter de manière pas trop maladroite, ou qui nous mettent je sais pas, quelques scènes en plus, tu vois, genre 5-6 minutes de film où on va le voir parce qu'en fait on va se dire bah tiens, il cachait son identité machin, et on est vraiment aux prémices des pouvoirs de Spider-Man quand il a pas encore son costume tout fait, qu'il est pas encore super connu. Et ça pourrait le faire, mais derrière, en réécriture profonde, les autres films, comme tu l'as dit au début de l'émission, c'est Marvel avait pas besoin de Spider-Man, tout était déjà prêt sur des années, donc Spider-Man à être intégré comme ça, ça va pas changer grand chose, quoi, niveau écriture.
Ouais, je suis d'accord. Je pense que s'il l'intègre, ce sera vraiment, voilà, en surface. Peut-être une ou deux scènes clés au début ou à la fin d'un film, mais pas au cœur d'une intrigue. Ils vont se servir de leur film solo pour le faire, comme tous les autres persos le font. Je pense que Civil War, ça va être véritablement le premier qui aura une incidence aussi large sur les autres films. Hors Avengers, bien sûr. C'est la première fois, voilà, je pense.
On en avait parlé dans le dernier Clairvoyant, mais c'est vrai que moi, je commence à être limite plus impatient de voir ce Civil War, finalement, que Age of Ultron, parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être un truc assez énorme, surtout si maintenant, en plus, ils ont récupéré Spidey, qu'ils vont pouvoir faire mieux avec, ça peut être quelque chose d'assez fandard, et qui, du coup, va effectivement, comme tu dis, je pense avoir une grosse influence sur les films qui vont suivre. Moi, je pense aussi que tout va dépendre, encore une fois, du succès du film solo en 2017, et que là, ils vont tâter le terrain en le lançant dans un film à eux pour voir comment ça se passe et si ça s'intègre bien. Et après, une fois que le film solo va sortir, voir si ce film fonctionne ou pas. Et s'il fonctionne, je pense qu'il y aura plus de Peter Parker dans le MCU. Et si ça fonctionne pas, ben, ils vont globalement s'en détacher progressivement et se dire que au moins ils auront essayé. Mais une réécriture massive de la phase 3, en tout cas, j'en vois pas la nécessité pour le moment.
Non.
Par contre, niveau réécriture, là où moi j'ai ma théorie aussi, j'ai ma petite idée, c'est qu'il est possible...
Attention,
c'est l'heure du théorie crafting. L'idée qui m'est venue quand j'ai vu la news et voyant qu'il y a les films, les séries Netflix qui arrivent, je me dis, avec Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, qui sont des New Yorkais, qui sont des potes quelque part de Spidey, qui le connaissent très bien, avec qui il a combattu le crime pendant très longtemps, il y a un grand arc Daredevil Spider-Man qui est super intéressant. intéressant. Je me dis qu'on va avoir des appels du pied, des gros nudges peut-être dans la série pour parler d'un jeune. Eux sont déjà établis, on va dire Daredevil. On va vivre ses origines et son combat contre le crime. Je serais pas étonné qu'il croise dans ses aventures, peut-être pas sur la saison 1 parce que c'est 2015, mais peut-être sur la saison 2 en 2016 pour amorcer les choses justement, amorcer un petit peu dans la deuxième partie de la saison de Daredevil ou juste avant la sortie du film, de voir que dans les séries on parle d'un jeune justicier ou d'un mec qui se balade dans les ruelles avec une toile, tu vois, histoire de réécrire un tout petit peu les séries et d'amener l'arrivée du personnage dans l'univers new-yorkais Marvel, quoi.
Bah, c'est un peu à ça que servait Agents of S.H.I.E.L.D. hein, pour les...
Mais Agents of S.H.I.E.L.D. a servi de pied de biche pour Age of Ultron pendant 17 épisodes. Là, la saison 2... Pour Winter Soldier, pardon.
Ouais, ouais, ouais.
Là, justement, on va peut-être avoir des
grosses références.
Des références à Age of Ultron pour la prochaine saison qui débute, enfin la demi-saison qui débute en mars. On a des trucs sur les Inhumans, on va en savoir plus aussi. Donc je pense qu'ils peuvent s'appuyer sur les séries justement pour intégrer, on en avait déjà parlé Fask, mais s'appuyer sur les séries pour amener les persos, des nouveaux persos, des persos comme là pour Spider-Man intégrés au pied levé, ça pourrait être plus intéressant et plus facile à réécrire que pour des grands films qui eux vont être des trucs établis et vraiment carrés, quoi.
Alors question subsidiaire, évidemment, est-ce que vous pensez que ça va pas commencer à fatiguer un peu tout le monde ces reboots de Spider-Man, parce que là on en a quand même, on est au deuxième reboot en moins de 15 ans, quoi. C'est énorme. Est-ce que ça va pas compliquer toute cette histoire dans l'esprit des gens? Est-ce que ça va pas les lasser? Est-ce que les gens n'ont peut-être pas un peu marre de Spider-Man?
Ce que je me dis, c'est que les gens qui continuent à regarder tout ça, à suivre la saga Marvel au cinéma, c'est pas le genre de personne qui va se fatiguer. Les autres, les personnes qui y vont à l'occasion et qui à qui ce genre de news ne fait rien, eux ça les fatiguera, ça peut les fatiguer éventuellement, mais nous les fans, les véritables personnes qui sommes vraiment concernés par ce genre d'information, et c'est pour ça qu'on passe une heure à en parler, nous c'est jamais ce genre de choses nous fatigueront. On sait que les grandes sociétés, les grandes compagnies mettent beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour faire des trucs cohérents, des univers propres, ce genre de choses. Nous on va aller suivre justement pour voir quel est le résultat de ces milliards déplacés à droite et à gauche. Par contre oui, la personne un peu moins intéressée, elle va se demander pourquoi il y a autant de films et pourquoi autant de comédiens différents l'ont représenté. Oui,
moi je pense que justement ça peut susciter une nouvelle curiosité, en fait, le fait que le personnage, alors pas seulement le fait que le personnage soit encore une fois rebooté, parce que ça effectivement ça paraît plus être un gimmick qu'autre chose, mais là en l'occurrence savoir que ce personnage va être intégré dans un univers qui existe déjà depuis une dizaine d'années, que donc il y a peut-être une nouvelle curiosité par rapport au perso. Peut-être que les gens vont se dire tiens, c'est un Spider-Man qui m'intéresse parce que il va être intégré dans un univers plus global où il n'est pas juste le seul super-héros à l'affiche, etc. Donc qui sait, si tout ça est bien marketé, si on explique bien aux gens pourquoi on reboot encore une fois le truc et que c'est une bonne idée, et si surtout on l'introduit progressivement dans les films du MCU, dans l'univers du MCU, donc les films et les séries à côté de ça, je pense que pour 2017 le terrain va être bien bien chaud pour qu'il sorte, et je pense que voilà, s'il n'y a pas un phénomène de lassitude de reboot, et si ils ont pas une campagne de presse qui va dans ce sens-là à 10 jours de la sortie du film, je pense que ça devrait aller normalement. Enfin, en tout cas, il me semble que
je pense pas qu'il y aura de phénomène de lassitude. La lassitude, on l'a senti au niveau des critiques, au niveau du public, même si on est tous allés le voir, entre guillemets. Les Spider-Man de web, il y avait de l'attente de la part des gens, parce que les gens aiment Spider-Man. C'est un fait acquis depuis 15 ans. Les gens aiment Spider-Man. Ils ont été déçus. Ils ont quand même donné sa chance, parce que c'est Spidey et Peter Parker. Quand on est fan de Marvel, on a un certain attachement envers lui, parce que c'est Peter, il est comme ça, et c'est le mec qui galère, et les films sont un peu à l'image de Peter Parker, c'est-à-dire il tombe souvent et il se relève, et à chaque fois il peut se relever en étant magnifique. Et dans les séries Marvel, enfin dans la saga Marvel MCU qu'on est en train de vivre depuis maintenant 10 ans et qu'on va continuer encore de vivre longtemps, j'espère, je pense que il y aura pas de lassitude du public s'ils arrivent à garder l'esprit Spider-Man, et là ils ont une bonne occasion avec cette annonce. c'est d'intégrer Spidey tel qu'il est dans les comics, c'est-à-dire le mec qui arrive un peu au débotté comme un cheveu sur la soupe et qui va foutre le bordel au niveau des méchants, tu sais, le mec qu'on n'attend pas en fait. Ça a toujours été ça dans plein d'arc Marvel des Avengers. Tu vois Spidey arriver, fait, les mecs, désolé, je suis à la bourre, j'arrive, j'étais occupé à me casser les doigts en latverie à faire un truc, mais là ça y est, je viens vous filer un coup de main.
Ce serait une bonne button scene pour Javel.
Mais c'est totalement ça, il arrive à la bourre, c'est déjà fini.
Sorry, je suis un peu en retard là.
Mais c'est ça qu'il faisait dans les comics, et combien de fois même au combat du Super Adaptoid, qui est pour moi l'un des trucs les plus ouf qui a marqué mon enfance avec les Avengers, mais t'as Captain America qui est en miettes face au Super Adaptoid, qui a les mêmes pouvoirs que lui, et t'as Spidey qui le regarde et qui lui fait une vieille vanne du genre bon ok, je suis à la bourre, mais t'aurais pu attendre pour te déshabiller, tu vois, un truc comme ça, et t'as Captain qui est en train de pisser le sang, qui est en morceaux, qui fait non mais c'est maintenant que t'arrives, ah désolé. Et j'aimerais qu'il fasse ça comme ça aussi, qu'il le pousse dans l'humour de Spider-Man.
Ouais, mais ça je suis pas très inquiet.
Il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé, c'est que c'est vrai que toutes ces licences elles ont commencé il y a un certain temps, mais il y a une génération en dessous. Et est-ce que ce nouveau Spider-Man pourrait pas devenir le Spider-Man de cette future génération?
Je pense que c'est sur ça qu'on se nie aussi, hein, en se servant du MCU comme point d'entrée justement pour remettre un peu d'intérêt sur le personnage de Spider-Man auprès des gamins qui suivent le MCU, qui suivent les films d'Iron Man, etc. Se dire tiens, il est de retour lui en fait, mais je vais peut-être aller le voir. C'est clairement une option aussi. Ouais.
Puis on peut tabler sur peut-être si la mort d'un Avenger, lol, ils vont tuer Spider-Man. Imagine le film Spider-Man se casse la gueule, fin de phase 3, mort d'un Avengers, mort de Spider-Man. Bonne journée Sony, bisous.
Bravo.
Ils auraient même pas besoin de tuer Hawkeye, ce serait magnifique.
Non, cela dit, en fait, ils pourraient le tuer dans... Attends, je pense à un truc maintenant, tant qu'on est dans les théories un peu fofolles. Ils pourraient parfaitement se débarrasser de Peter Parker dans Civil War, et du coup, ça leur permettrait d'introduire Miles Morales. Dans le film solo. Ouais,
voilà.
Pas bête.
Parce que c'est la raison, en fait, pour laquelle, pour le moment, moi, je suis convaincu que ça va être Peter Parker, c'est que l'annonce dit Peter Parker en toutes lettres, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de doute.
Oui.
Mais effectivement, rien ne dit que c'est qu'ils vont rester sur Peter Parker, et on connaît l'esprit tordu de Kevin Feige et son amour pour les reveals de reveal sur reveal. Et du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal de l'intégrer dans le film Civil War, de le faire mourir, justement, donc du coup, qu'il ait son rôle symbolique, machin, etc., de victime de tout ça, et après. Grosse interrogation évidemment dans la foule, parce qu'on va se dire mais le film qui sort en 2017 du coup c'est qui?
Ce serait une belle vengeance sur Sony en plus.
Miles Morales débarque et tout le monde est content et ils nous mettent j'ai oublié son nom là, le mec qui joue dans Community, que tout le monde veut voir jouer Miles Morales Spider-Man.
Donald Glover,
voilà, c'est ça. Et là tout le monde est content et c'est l'explosion de joie sur la planète.
Ce serait fabuleux, puis ce serait un terrible pied de nez à Sony, parce que on récupère Spider-Man, on fait ce que vous dites, on le tue parce qu'on fait ce qu'on veut, et puis là on met un Spider-Man qui nous convient, qui s'intègre chez nous, et vous prenez un peu de maille, mais vous nous foutez la paix.
Franchement, si c'est leur plan, moi je signe tout de suite. Hein,
voilà. Ah mais je signe de suite, moi ça me ferait mourir de rire. Et puis apparemment le nouveau Spider-Man est assez bien. Je crois que tu l'as lu, Ike, en partie, et Miles Morales.
Alors non, c'est pas Miles Morales dans les nouveaux, ce qu'ils appellent le reboot de Amazing Spider-Man. Donc après que Superior Spider-Man ait échangé encore une fois les consciences, je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire.
Oui,
voilà.
Oui.
Écoutez, ça c'est sympa, hein, c'est pas non plus, ça casse pas des briques. Je suis en train de continuer tranquillement. Je la recommande pas pour le moment. J'attends vraiment d'avancer parce que là pour l'instant on est vraiment au début et Peter Parker vient juste de revenir. Je peux vraiment pas en dire plus parce que j'en ai pas lu plus, donc je vais pas dire de bêtises.
Et donc du coup ça leur laisse quand même, ça leur laisse un terrain assez large pour pouvoir bosser au final.
Oui, non, c'est clair. Donc Miles Morales, peut-être, hein, qui sait. Moi, j'espère. En tout cas, ça pourrait être un joli coup de buzz. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je voulais qu'on le fasse dans une émission à part parce que je m'étais dit que soit on allait en parler pendant 3 minutes en news dans un podcast normal et c'était un peu dommage, soit on allait s'étendre beaucoup trop longuement dans un podcast normal et c'était dommage aussi. Donc voilà, je voulais en faire une émission spéciale, je voulais inviter Ike parce que je sais que c'est un gros consommateur de comics aussi et que je voulais avoir un peu son avis sur la question. Et puis tant qu'on est sur toi Ike, on va faire un petit coup de promo pour Comics Podcast.
Oui, alors Comics Podcast c'est une émission de Shiradukawa qui est diffusée sur Synops Live un lundi sur deux. Entouré de 8 chroniqueurs, parce qu'on commence à être un certain nombre maintenant.
Ça m'a l'air d'un joyeux bordel.
Ouais, bah après on n'est pas là tous en même temps, mais voilà, on essaie de se distribuer un peu les rôles. On va vous parler de 3 comics qu'on aura choisis, soit des trucs récents, soit des trucs classiques. Et puis ensuite, on va essayer de parler aussi un peu comme vous, de ce qui entoure l'univers des comics. Mais nous, on dépasse le carcan Marvel, on va aussi voir chez Image Comics, chez DC Comics, Dynamite, tout ce qui est crossover entre, Doodle Jump et Transformers, ce genre de choses un peu étranges. On les lit pour vous et on en parle ensemble. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les avis de tout le monde. Donc, c'est vraiment pour présenter. Hein. On n'est pas des pros, on est là en tant que consommateurs assidus de comics et on donne nos avis aussi purement et simplement que ça. On parle un peu des films, on parle un peu des séries, voilà. Et on fait ça avec beaucoup de mauvais espoir, hein, parce que voilà, on est tous un peu des fanboys. Mais voilà, on fait ça.
Tu parles de Kamui là, c'est ça?
Je parle de tout le monde, parce qu'au final, il y en a certains qui cachent bien leur jeu. Mais au final, ce sont des gros fanboys et ils démordent pas de certains avis bien arrêtés. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'être aussi nombreux.
Écoute, on peut pas faire plus fanboy que nous, vu que nous, on fait carrément une émission sur un truc ultra spécifique.
C'est ça.
Ce qu'on
a déjà. Et encore, je me bats depuis bientôt un an, parce qu'on va bientôt fêter les un an des clairvoyants, mais je veux une émission spéciale Modoc et je l'aurai.
Ce qu'on nous a d'ailleurs reproché, ce qui est assez surréaliste, je me souviens d'un mail ou d'un tweet au tout début où on a eu comme feedback, ouais, mais quand même, vous êtes des putains de fanboy Marvel, ça s'entend, c'est un peu, c'est un peu évident. Bah oui, on fait une émission sur Marvel et sur l'univers cinématique, donc forcément, on est fan, tu vois, donc on va pas faire des critiques du Nord en disant que c'est de la merde. C'est pas notre objectif non plus. Mais donc, c'est cool. Donc, vous parlez de comics de manière générale, vous parlez de tout ce qui touche un peu aux comics, puis il y a des débats aussi, parfois, j'ai cru comprendre.
Oui, voilà, on fait des débats, donc, bon, on va prendre des thèmes, assez, généraux, parfois on va se concentrer sur des auteurs, parfois on va prendre des sujets comme la place de la femme, ce genre de choses. On essaye vraiment de et c'est très très intéressant. D'ailleurs vous devriez écouter celui sur les femmes dans DC, c'est assez effarant même. C'est vraiment le reflet de la société et parfois on découvre des choses assez vilaines, par exemple Wonder Woman qui à une certaine époque devait faire le ménage dans la Justice League parce que c'était la seule femme.
Elle faisait le ménage chez Justice League, elle avait son aspirateur, voilà, ce genre de choses. Ça a fait grincer des dents chez ça. Non, l'aspirateur n'est pas comme les nez. L'aspirateur disait la vérité. Oh, mais c'est...
Et ça, c'est impensable aujourd'hui, on parle de ça, c'est assez intéressant, voilà.
Eh ben écoute, c'est cool. Donc c'est tous les lundis, un lundi sur
tous
deux.
Tous les deux lundis, voilà. Voilà.
Sur Radio Kawa, Synops Live, Comics Podcast, de toute façon, il y a les liens sur le site des clairvoyants. Et puis, ça nous a fait plaisir de t'accueillir pour une fois, tiens, dans l'émission.
Et moi, ça m'a fait plaisir de participer, c'était super. Vous pouvez venir, hein. Je sais que vous n'êtes pas à Paris, mais venez quand vous pouvez.
Fasquille, il est à Paris, moi non, mais Fasquille, il vient quand il veut.
Un peu en banlieue quand même, mais
Oh, ça va, toi t'as un métro à prendre, moi j'ai un train plus des métros à prendre.
Tu vas 20 ans, t'es plus considéré comme un Parisien, quoi, c'est terrible.
Moi aussi, je suis bizarre maintenant.
Mais cela dit, je note l'invitation, par contre, il faudra que tu m'expliques quand vous enregistrez exactement que je passe... C'est du côté de Bastille, hein, c'est ça que vous êtes...
C'est ça, ouais, voilà. C'est dans les studios de WeFM, on est gracieusement hébergés.
Eh ben écoute, je passerai vous voir, un de ces quatre, venir troller avec vous d'ailleurs.
Avec plaisir.
Eh ben nous, on se retrouve, mon petit Fox, si tout va bien, d'ici une grosse quinzaine de jours pour notre émission normale. On vous parlera.
Ça reprendra le cours normal de l'émission.
Voilà, et on vous parlera notamment des Avengers, puisqu'on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire un profil quand même un peu sur eux et vous expliquer d'où vient la team. Et surtout, passer en revue, peut-être pas tous les membres des Avengers, qui n'a pas pas loin de 200 si je dis pas de conneries.
Je crois qu'on est même à 250 au final, mais
voilà, j'ai essayé de faire les comptes là en préparant déjà un peu le truc et c'est vrai que c'est pas évident, donc mais voilà, on vous fera un petit focus sur la team, sur d'où elle vient, ses origines, tout ça, et puis ce qu'elle va devenir dans le MCU, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements autour des Avengers dans la phase 3, et même déjà après Age of Ultron. Bon bah voilà, c'est ce qui clôture donc cette spéciale Spider-Man. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours, écoutez Comics Podcast sur Radio Canu,
ouais.
Et puis merci Fox, merci Ike, et à bientôt.
Des bisous.
À bientôt.
Of your friendly neighborhood Spider-Man.
This too? How much can I take?
Mr. Jameson.
I had him. Spider-Man has made a fool of me again.
Oh. Now, Mr. Jameson, you've been working too hard. What you need is a good rest.
Betty, may I see Mr. Jameson?
Sorry, but Mr. Jameson won't be in this week.
Was something wrong?
Yes. He was stung by a spider.